Décryptage. Anne Cantner.
Pour quelques heures encore, les députés britanniques sont réunis à Londres. Dès la fin des débats ce soir, leurs travaux seront suspendus pour 5 semaines à la demande du Premier ministre. Boris Johnson en plein tourbillon politique autour du Brexit. Pour l'instant, la sortie de l'Union européenne est toujours prévue le 31 octobre. Mais à 53 jours de l'échéance, la classe politique se divise sur les conditions de ce Brexit. Et Boris Johnson est fragilisé par des démissions en série, un Parlement désormais majoritairement hostile et des partenaires européens pas vraiment emballés par la perspective d'un nouveau report du Brexit. Alors notre question ce soir, le Premier ministre britannique se trouve-t-il dans une impasse ?
Je trouve cela scandaleux. Le Parlement devrait siéger et demander des comptes au gouvernement. Mais le Premier ministre semble vouloir fuir les questions. Il a été nommé à la fin du mois de juillet. Il a fait face une fois aux questions des députés et maintenant il proroge le Parlement.
La voix que l'on vient d'entendre est celle de Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste, opposant donc au Premier ministre. Et pour essayer de comprendre ce qui se joue en ce moment au Royaume-Uni, nous recevons ce soir Elvire Fabry, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors. Bonjour.
Bonjour.
Et Thibaut Arroy, maître de conférence en civilisation britannique à l'Université Sorbonne Nouvelle. Bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre la colère de l'opposition. Que cherche Boris Johnson avec cette suspension du Parlement ?
Très bonne question. Si je pouvais vous le dire, ce serait intéressant. La suspension du Parlement a été décidée certainement dans le but de mettre la pression sur l'opposition, essayer de faire bouger quelque peu les lignes, essayer de trouver la majorité introuvable de Theresa May. Elle n'avait pas réussi à rassembler autour de son texte. Peut-être que Boris Johnson avait l'idée que en serrant le calendrier, les lignes pouvaient éventuellement bouger un petit peu. Aussi, suspendre quelque peu les débats afin de gagner du temps dans des négociations avec l'Union européenne, éventuellement. Sauf qu'on a vu que du côté de l'Union européenne, c'était quelque chose qui n'était pas accepté. Donc on a du mal à voir véritablement quel est le jeu de Boris Johnson, sauf à envenimer encore plus un débat qu'il était déjà dans les semaines passées.
D'autant que depuis, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Boris Johnson a perdu sa majorité au Parlement. Plusieurs de ses ministres ont démissionné. Un certain nombre de députés conservateurs ont été exclus du parti parce qu'ils avaient pris position contre Boris Johnson. Elvire Fabry, est-ce que ça signifie que le Premier ministre a perdu son pari ?
Oui, il a perdu son pari parce qu'en effet, ne serait-ce que à travers cette extension, il cherchait à limiter les entraves qui pouvaient venir de la Chambre des communes et à maîtriser complètement l'agenda. Et finalement, là, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que le Parlement a repris la main sur cet agenda en imposant une porte de sortie vers une possibilité d'extension qui serait adressée aux Européens et en lui forçant la main. Donc il se retrouve aujourd'hui vraiment dans une position fragilisée. Pour ce qui est de la majorité même au sein de la Chambre des communes, c'est encore plus embarrassant pour lui à moyen terme pour dérouler tout son agenda domestique, son agenda national. Et finalement, c'est ce qu'il souhaitait avant tout, indépendamment du dossier du Brexit, c'était devenir le Premier ministre et prendre la main. Et là, sans cette majorité, il a un double problème, à la fois pour gérer le Brexit et pour la suite de son mandat.
Thibaut Arroy, de quelle marge de manœuvre dispose Boris Johnson aujourd'hui, maintenant qu'il a perdu cette majorité ?
Elle est extrêmement faible. On voit qu'en effet, il a perdu sa majorité. Il a aussi perdu le contrôle de l'agenda parlementaire la semaine dernière, quand les députés ont repris la main pour faire voter la loi qui le contraint à aller négocier ou demander à Bruxelles un report éventuellement de la sortie donc qui est prévue actuellement au 31 octobre. On lui demande d'exiger que ça soit maintenant le 31 janvier. Donc sa marge de manœuvre à lui, elle est en réalité maintenant extrêmement limitée. Il a demandé également éventuellement l'organisation de nouvelles élections. L'opposition a déclaré vendredi qu'elle voterait contre l'organisation de cette nouvelle élection. On sait que le Premier ministre a besoin d'une majorité qualifiée de 2/3 des députés, donc ça veut dire une partie de l'opposition qui voterait avec la majorité et avec le gouvernement. Et là, pour l'instant, Boris Johnson n'a pas les 434 députés nécessaires, ce qui veut dire en réalité qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, qu'il n'a pas la main sur le calendrier et qu'il est maintenant à la merci du bon vouloir des députés qu'il renvoie ce soir pour une période de 5 semaines.
Est-ce que D'ici là, les députés seront consultés une nouvelle fois. Vous en parliez sur ce projet d'organiser des élections législatives anticipées. Boris Johnson voudrait qu'elles aient lieu le 15 octobre. Les parlementaires ont donc déjà rejeté cette option. L'opposition, en fait, voudrait d'abord obtenir des garanties sur le Brexit. Elle préférerait un report au-delà de la date prévue, donc qui est pour l'instant fixée au 31 octobre. Alors, même si les avis diffèrent sur la date, dans le fond, tout le monde souhaite maintenant des élections anticipées, au moins on sait qu'elles vont avoir lieu. Mais qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un nouveau Parlement, Elvire Fabry? Parce que ça fait des mois, des années même que la classe politique se divise sur ces questions du Brexit. Même si des élections anticipées ont lieu, qu'est-ce qui pourrait changer?
Ben, on voit, si on regarde si on regarde en arrière un peu ce qui s'est déroulé au printemps et sur les différents amendements qui ont rejeté l'accord de Theresa May, l'accord de sortie et avec une déclaration politique pour les relations à venir, on voit qu'une partie du problème, ça a été les divisions internes des deux grandes formations politiques, les conservateurs, les travaillistes, et qui a fait qu'on ne pouvait pas dégager une majorité en faveur, que ce soit l'accord de May, que ce soit d'une option alternative. Et finalement, on a le sentiment qu'il faut un petit peu secouer un petit peu cette classe politique qui est actuellement sur des lignes de faille, qui est en pleine division, et on attend de ces élections que d'y voir un peu plus clair. Ce qui, là où il n'y a aucune garantie, parce que indéniablement il y a un phénomène de purge qui pourrait se créer à la fois côté conservateur, parce qu'il y a un rejet là des Brexiteurs les plus durs de la part de ceux qui sont plus favorables soit à rester dans l'Union européenne, soit en tout cas d'un Brexit ordonné, encadré. Et puis côté travailliste, il y a beaucoup de contestations à l'égard du leader lui-même, de Jeremy Corbyn. Donc on sent que les plaques pourraient bouger. Est-ce que les libéraux-démocrates pourraient faire une percée plus significative? Comment se traduirait la percée dans les élections européennes du parti du Brexit de Nigel Farage, et quel impact il aurait sur le parti conservateur? En effet, il y a beaucoup de choses à attendre. Maintenant, il y a un énorme point d'interrogation qui reste sur l'impact que ça aurait sur le Brexit et finalement quelle option nouvelle ça pourrait faire apparaître.
Je préférerais être mort au fond d'un fossé.
Donc vous préféreriez démissionner que de demander ce report?
Écoutez, je pense juste que cela coûte 1 milliard de livres par mois, cela ne résout rien. Alors à quoi pourrait bien servir un report supplémentaire?
Alors, on aurait pu penser que les revers politiques essuyés la semaine dernière auraient adouci le discours du Premier ministre, mais pas du tout, on vient de l'entendre. Il a répété d'ailleurs aujourd'hui, il l'a redit en précisant qu'il n'était pas intimidé par le Parlement. Thibault Arroy, combien de temps peut durer ce conflit de légitimité entre Boris Johnson et le Parlement?
Oh bah, ça peut durer encore un certain temps tant que le gouvernement n'est pas renversé. Sauf que si le Boris Johnson continue à être systématiquement mis en minorité, on finira quand même par organiser des élections. La question maintenant, c'est quand est-ce que ces élections auront lieu. Les travaillistes ne sont pas favorables à l'organisation d'élections immédiatement. On a dit qu'ils attendent des garanties d'abord avant de voter en faveur de la dissolution du Parlement. Mais il y a aussi la réalité des sondages. Et on voit que malgré les événements, malgré les difficultés de Boris Johnson, les conservateurs sont encore en tête dans les sondages. Les travaillistes sont derrière. Et Jeremy Corbyn est en réalité encore extrêmement impopulaire et n'est pas prêt à récolter les voix de ceux qui seraient déçus par un parti conservateur qui va de plus en plus vers sa droite et qui courtise l'électorat en réalité du Brexit Party de Nigel Farage. Donc pour l'instant, les travaillistes attendent, peut-être dans le but de convaincre les électeurs que le meilleur choix serait en effet de changer de majorité. On peut penser que une fois le report obtenu de la part du Royaume-Uni, si l'Union européenne était d'accord, un report donc pour le 31 janvier. Éventuellement, à ce moment-là, les travaillistes et une partie plus large de l'opposition voteraient avec le gouvernement pour dissoudre la Chambre. Et donc, on aurait des élections probablement mi-novembre, fin novembre, voilà, en tout cas pendant l'automne, dans le but de négocier éventuellement une sortie pour fin janvier.
Alors là, on parle d'élections à venir. En attendant, il y a quand même eu un vote il y a 3 ans pour le Brexit. Aujourd'hui encore, devant le Parlement, certains étaient venus avec des panneaux, des banderoles pour rappeler qu'ils avaient voté, qu'ils s'étaient prononcés pour quitter l'Union européenne. Elvire Fabry, en tenant tête de cette manière au Premier ministre, est-ce que le Parlement respecte ce vote, la volonté des Britanniques ?
Le Parlement a un rôle clé dans le fonctionnement politique britannique. C'est lui qui est dépositaire de la souveraineté politique en tant que telle. Donc, vu de France, on porte un regard un petit peu biaisé, si je peux dire, sur la situation, si on ne tient pas compte de ce point. Il y a indéniablement un rapport de force qui est en train de s'établir au Royaume-Uni sur cette articulation Parlement-opinion populaire.
Chacun se revendiquant finalement de défendre le peuple. Et Boris Johnson qui dit « je vais appliquer ce pourquoi les Britanniques ont voté ». Et puis le Parlement qui dit « mais nous aussi, nous représentons le peuple et nous souhaitons que ça soit fait dans les cordes, en quelque sorte ».
Oui, je dirais que des deux côtés, il y a quelque chose d'un petit peu frustrant. Parce que d'une part, dans la consultation du référendum, on sait que la question... a suscité quand même beaucoup de débats. Le débat a été peu informé. Et puis par ailleurs que dans la Chambre des communes, il y a eu finalement très peu d'espace pour une véritable confrontation et un véritable débat de fond sur les options à conduire. Donc on voit que c'était aussi un débat qui vient se greffer sur une situation politique qui a actuellement ses faiblesses et qui est un terreau pour cristalliser un peu plus dans le cadre du Brexit. Juste un petit point qui a été peu souligné ces derniers jours. Il faut tenir compte du fait que dans la loi qui vient de passer pour demander, forcer l'extension...
Une loi qui a été votée donc ces derniers jours et dans laquelle les députés obligent Boris Johnson à demander un nouveau report s'il n'a pas réussi à trouver d'accord avec l'Union européenne avant le 19 octobre, ce qui paraît extrêmement peu probable. Donc effectivement, on se dirigerait vers un nouveau report.
Absolument. Dans cette loi, il y a un élément intéressant qui est une forme de mise sous tutelle du gouvernement avec une obligation pour le gouvernement de venir demander l'assentiment du Parlement toutes les X semaines dans la négociation d'un nouvel accord. Ça veut dire que là, le gouvernement reprend véritablement la main sur le gouvernement. C'est une étape encore supplémentaire par rapport au processus qui s'est déroulé jusqu'à maintenant.
Donc le Parlement, effectivement, a bien fait comprendre sa volonté d'être davantage impliqué, voire même, comme vous le disiez, de reprendre la main. Thibault Arroy, Boris Johnson a quand même laissé entendre qu'il pourrait ne pas se conformer à cette fameuse loi. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait réellement l'ignorer ?
Alors, le Royaume-Uni est un état de droit, le Premier ministre respecte normalement la loi. Donc on voit mal Boris Johnson passer outre, ce qui donnerait lieu à un conflit avec le Parlement, qui donnerait lieu à un certain nombre de recours en justice et qui mettrait à mal la Constitution britannique. Donc je ne vois pas Boris Johnson ignorer la loi. On a évoqué aujourd'hui la possibilité qu'il envoie une deuxième lettre à l'Union européenne après avoir demandé en effet le report, donc après avoir obéi à cette injonction du Parlement, d'envoyer une deuxième lettre disant « ignorez la première et avançons sur le chemin qu'on avait emprunté jusque-là ». Ça serait aussi ignorer l'esprit de la loi et les juges n'apprécieraient pas, ni d'ailleurs l'Union européenne. Donc cette option me semble devoir être écartée, même si ça a été circulé notamment dans la presse aujourd'hui.
D'accord, des choses, c'est non. Puisqu'ils disent qu'ils veulent proposer d'autres solutions alternatives, des arrangements alternatifs pour assurer le retrait et assurer le no deal, nous ne les avons pas vus, donc c'est non. On va pas recommencer tous les 3 mois.
Voilà le ministre français des Affaires étrangères, assez clair sur l'éventualité d'un nouveau report, alors que le Premier ministre britannique risque donc de se trouver en position de devoir négocier de nouveau un report de 3 mois. Elvire Fabry, dans quel état d'esprit se trouvent les autres pays européens sur cette question ?
Écoutez, la cohésion des Européens, déjà, elle est restée forte tout au long du processus. Elle l'est encore aujourd'hui. Et Bruxelles parle d'une voix pour les 27. Et ça a été dit clairement, l'accord de négocier avec Theresa May, il y a pas beaucoup de gras à renégocier. Il y a pas grand chose. On n'est pas prêt à changer grand chose parce qu'on a été jusqu'au bout des négociations. Ça a été discuté et rediscuté. Et maintenant, il faudrait une intention claire, même pour une extension. C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui, côté continent européen, de revivre le scénario du printemps, avec une demande d'extension, une éventuelle crise politique à la clé, et finalement peu d'options claires pour pouvoir engager à nouveau une renégociation. Donc c'est vrai que côté européen, actuellement, on sent qu'il y a quand même une très forte lassitude. Le ton a été donné, si je puis dire, est venu de la France là à travers le ministre Le Drian, comme ça avait été le cas au printemps, où on sait que la France avait été la plus réticente vers le fait de concéder une extension longue et avait en fait imposé un peu l'idée d'une extension courte. Là, c'est même sur l'idée d'une extension elle-même qu'on sent un peu de lassitude et que les milieux économiques se sont quand même déjà préparés au printemps, à nouveau se préparent, reprendre les mesures d'urgence à un coût économique. Est-ce qu'il ne faut pas aller, est-ce qu'on n'est pas prêt finalement à en tout cas opter vers une situation qui aurait le mérite au moins d'être claire, qui est une situation no deal dont le coût économique est le coût maximum, mais qui permettrait de faire avancer l'agenda européen et par ailleurs de redémarrer sur les futures relations de manière un peu plus claire. C'est ça qui va être discuté dans les semaines qui viennent.
Alors il y aura un moment clé, c'est le Conseil européen qui est prévu les 17 et 18 octobre prochains. Selon certaines informations, Boris Johnson pourrait demander à un pays européen de s'opposer à un nouveau report du Brexit. On cite notamment le nom de la Hongrie. Thibault Arroy, que pensez-vous de ce plan? Est-ce que c'est crédible?
Alors bon, déjà c'est difficile de savoir ce qu'il en est réellement, mais comme on vient de le rappeler, les 27 jusqu'à présent sont restés formidablement unis et on voit mal aujourd'hui ce qui pourrait pousser la Hongrie à trahir ses partenaires. Bon, certes la Hongrie est parfois un partenaire difficile dans l'Union européenne, mais de là à mettre par terre tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, ça semble difficile. Mais en fait, en réalité, c'est peut-être l'Union européenne dans son ensemble qui va s'opposer à ce report, comme on vient de l'évoquer, parce que il y a cette lassitude, la volonté d'avancer, et peut-être aussi chez les Français l'idée que on ne peut plus ignorer ce vote, ce référendum qui a en effet eu lieu, ne pas reproduire peut-être ce qui s'est passé ou ce qu'on dit s'être passé en 2007 lorsque le traité de Lisbonne a été adopté, on a dit que c'était quelque part ignorer le référendum de 2005, et peut-être que le président français ou ici le ministre Le Drian veulent aussi ne pas reproduire ce genre de situation vis-à-vis du Royaume-Uni et de l'électorat britannique.
Est-ce que cette situation politique extrêmement tendue et cette menace de no deal pourrait être utilisée par Boris Johnson pour faire pression sur les Européens et les amener à négocier un autre accord ou au moins à aménager l'accord existant très rapidement, Elvire Fabry?
Oui, certainement. Certainement, parce qu'en exerçant cette menace, en la rendant beaucoup plus concrète, ils exercent une pression supplémentaire sur les Européens, et en effet, en cherchant la faille peut-être d'un côté ou de l'autre d'un autre membre, la pression elle s'exerce également côté britannique, parce que on peut s'interroger encore, se demander s'il peut pas y avoir un ultime mouvement pour voter en faveur d'un deal de Theresa May qui aurait été repeint d'une couleur un peu différente à la marge avec quelques détails modifiés pour finalement éviter cette situation qui, au-delà même de la gestion du no deal, la gestion économique du no deal, annoncerait des années de complications, une situation encore plus compliquée pour les futures négociations avec l'Union européenne.
Oui, effectivement, une pression aussi interne qui pourrait, parce que finalement, les députés vont quand même se retrouver deux semaines à partir du 14 octobre. Est-ce que vous pensez que ce serait un délai suffisant pour ce que vous évoquiez à l'instant?
On était passé quand même à trois voix au printemps d'un vote qui aurait permis de faire passer l'accord de Theresa May. Et c'était vraiment sous l'effet de la pression maximum. Donc le scénario peut se reproduire.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Thibault Arroy, maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle, et Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut Jacques Delors. Merci également à ceux qui ont préparé cette émission. Victor Hull à la réalisation, attaché de production Éléonore Krenik, et à la rédaction en chef aujourd'hui, Jacques Alix. Bonne fin de journée à tous et à demain.